Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Je suis contente que vous soyez là. On va parler, bien sûr, des préposés aux bénéficiaires en première heure d'émission. C'est une émission un peu de travail, finalement, que je vous propose ce matin, parce qu'en deuxième heure aussi, on aura un sujet connexe à l'emploi. Vous avez entendu Justin Trudeau hier qui commence à dire que, finalement, la PCU, la prestation canadienne d'urgence, et non pas le petit congé utile, ça tire à sa fin. On avait donc ces indications qu'il va peut-être falloir retourner au travail. Dernièrement, par voie de sondage, on demandait aux gens, puis il y a beaucoup de Québécois qui ne sont pas trop enclins à l'idée de retourner au bureau. Donc, on va voir ce que vous en pensez, comment on pourrait faire ça. Beaucoup de gens se sont pris à aimer ça, le télétravail. Donc, on va parler de ça en deuxième heure. Je vous disais qu'on allait parler des préposés aux bénéficiaires. Je pense que c'est le sujet du jour, vraiment. Vous avez entendu François Legault hier, notre premier ministre, qui il ne sait plus où les trouver. Écoutez, en fait, ça fait 3 mois qu'on en cherche. On a tout essayé. Là, c'est rendu que c'est l'armée qui vient aider, qui est venue prêter main forte. On est passé de « on a besoin de bras » avec « je contribue, je bénévole ». Mais là, il manque toujours 10 000 personnes pour travailler dans les CHSLD au Québec. Où trouver ces gens-là? On réécoute François Legault qui était en point de presse donc hier après-midi.
Donc, ce qu'on vise, là, c'est de recruter 10 000 personnes qui accepteraient de venir suivre une formation qui va durer 3 mois. Donc, ça veut dire de la mi-juin à la mi-septembre. Les personnes qui vont s'engager vont être payées.
Alors, 10 000 personnes qui vont être payées, oui, effectivement, payées un très, très bon salaire, à tel point que ce matin, c'est un peu la panique dans le privé. On aura l'occasion de faire le tour de la question avec plein d'invités que je vais vous proposer d'écouter au fil de l'heure. On a toutefois appris dernièrement, c'est mon collègue Louis Lacroix qui était au point de presse, que vient de tenir la ministre des Aînés, Marguerite Blais, qui a voulu être rassurante, justement. Et je pense que c'est important d'aller voir avec Louis qu'est-ce qu'elle a tenu à dire. Vous avez entendu un petit peu dans le bulletin de nouvelles, Louis, mon collègue, donc l'expliquer. Mais je pense que c'est important. Louis est avec nous à nouveau. Bonjour, Louis Lacroix.
Oui, bonjour.
Oui, ben je voulais juste qu'on explique un petit peu plus aux auditeurs, auditrices. Louis, qu'a dit Marguerite Blais, au juste?
Bon, en fait, sur les 10 000 emplois, si je comprends bien, qui sont offerts par le gouvernement, c'est ça?
Oui, bien sûr.
OK. En fait, ce qu'elle a dit, c'est que, parce que la question, c'est de savoir, on les trouve où, ces gens-là? Dans quel secteur on va aller les chercher? Alors, Marguerite Blais a dit, entre autres, que il y a d'autres secteurs de l'économie qui sont au ralenti en ce moment. Elle a parlé de la restauration, elle a parlé de l'aéronautique et d'autres secteurs où des milliers de personnes ont perdu leur emploi à cause de la pandémie et qui pourraient être tentées d'accepter l'offre du gouvernement d'aller suivre une formation donc, et devenir préposé aux bénéficiaires. Alors, l'autre question que ça sous-tend, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de déshabiller Paul pour habiller Ginette, selon ce qu'a dit Marguerite Blais, parce qu'il y a des CHSLD privés, des CHSLD conventionnés qui ont eux-mêmes des préposés aux bénéficiaires dont les salaires sont inférieurs et qui pourraient donc être tentés de dire « ben moi, je vais aller dans le public, ça paye mieux. »
Alors attends, Marguerite Blais, Louis, a dit elle-même qu'on pourrait être tenté de...
En fait, qu'on pourrait déshabiller Paul. Il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Ginette.
C'est elle qui a dit ça?
Oui.
Des fois, j'ai l'impression qu'elle pense qu'elle est encore dans l'opposition.
Non, mais là, en fait, la phrase suivante, c'était de dire qu'il y a des pourparlers en ce moment avec l'association des CHSLD conventionnés et avec les CHSLD privés pour faire en sorte que ça n'arrive pas.
Ben oui, bon. Mais là, ça va être difficile. Puis là, on est rendu que... Là, je voulais être sûre d'avoir bien compris ce que tu disais tout à l'heure dans le bulletin de nouvelles, parce que donc, et c'est bien ça, tu le confirmes. Donc, les 10 000 personnes, c'est... Oui, on va ouvrir les vannes pour en former, mais on va aussi suggérer aux gens qui sont dans la restauration, dans l'aéronautique, de venir prêter main forte en suivant cette formation. Ça, c'est finalement, c'est un peu tout le monde. Vous venez tous suivre la formation. C'est un peu ça qu'on apprend.
Ben exactement. On dit, là, écoutez, il y a des emplois, on a besoin de gens, on a besoin de bras. Alors, si vous n'avez plus d'emploi puis vous voulez avoir un emploi qui paye autour de 50 000 $ une fois la formation reçue, ben il y a des possibilités. Alors, on mise là-dessus. Mais écoute, le problème, c'est que ça fait des années qu'on cherche à remplir les postes, les 10 000 postes en question. Là, c'est pas depuis la pandémie qu'il manque 10 000 personnes. C'était même le cas avant et on n'était pas capable de le faire. Alors là, on essaie de mettre les moyens. Simon-Jolin Barrette, à 11h30, devrait annoncer qu'on va aussi miser en partie sur l'immigration pour attirer des gens de l'étranger venir faire ce travail-là chez nous, mais ça sous-tend un paquet de sous-questions, à savoir comment on fait pour protéger le secteur privé, faire en sorte qu'eux ne soient pas pris au dépourvu, qu'il y ait une exode finalement des employés vers le secteur public. Ouais. Est-ce que ça veut dire financer les emplois, une certaine partie des salaires des gens qui travaillent dans le privé? Donc, il y a des discussions en ce moment, semble-t-il, pour essayer de trouver cette solution-là. L'autre aspect, l'autre question qu'on a posée à Marguerite Blais, c'est les fameux climatiseurs en période de canicule, là, comme ce qu'on connaît en ce moment. Pourquoi ça a été si long? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas agi alors qu'il y avait des entrepreneurs qui disaient depuis le 7 avril dernier, écoutez, là, il faudrait agir maintenant? Marguerite Blais a dit qu'elle avait préféré laisser le temps à la santé publique de prendre une décision, à savoir si c'était une bonne chose en période de pandémie d'installer des climatiseurs. Elle a dit on a pris le temps qu'il fallait pour avoir les réponses de la santé publique et ça nous a mené à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Mais là, j'ai posé des questions. Est-ce que depuis 2-3 jours, depuis qu'on est dans la canicule, il y a des endroits, des CHSLD qui ont reçu des équipements pour essayer d'alléger un peu le sort, si on veut, de ces gens-là? Là, il y a des endroits où il fait très chaud. Elle a dit que oui, il y avait eu quelques endroits, elle ne peut pas nous dire combien, elle ne peut pas nous dire où, mais il y a des endroits où on a installé des systèmes d'air climatisé.
Bon, ben écoute, alors, tant que ça soit prêt pour cet hiver, hein?
Ben, oui, exactement.
Mon Dieu! Écoute, merci.
On ouvrira les fenêtres cet hiver.
Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, Louis Lacroix. Merci bien. Louis Lacroix est notre chef de bureau à Québec. Je voulais vraiment l'entendre, puisqu'il vient de rencontrer la ministre Marguerite Blais, la ministre des Aînés. Je voulais vraiment qu'on clarifie, parce que j'étais pas sûre d'avoir bien compris. Est-ce que c'est effectivement la restauration, l'aéronautique, les fonctionnaires, là, des immigrants, Mon Dieu, là, c'est comme n'importe qui, finalement, qui a envie d'être préposé aux bénéficiaires. Et c'est la question que je vous pose ce matin, chers amis, en première heure d'émission. Vous, là, je sais pas ce que vous faites. Peut-être que vous êtes en train, finalement, de rabouter votre patio. Vous êtes trouvé un petit travail dans votre cour. Peut-être êtes-vous en train de planter vos fleurs. Peut-être êtes-vous en train d'attendre de voir quand est-ce qu'on va vous rappeler au bureau. Peut-être êtes-vous en télétravail, puis vous commencez à trouver que ça pourrait être bien d'aller donner un petit coup de main en CHSLD. Si vous êtes étudiant, que vous n'avez pas de travail, pourriez-vous être tenté par une formation? C'est quand même intéressant, payant 760 $ par semaine au moment où on nous dit que la PCU à 500 $ par semaine tire à sa fin. Il y a plein de questions comme ça. Une chose est sûre, c'est que là, on essaye de trouver 10 000 personne. Michel Lemelin est président directeur général de la Fédération professionnelle des préposés aux bénéficiaires du Québec. Bonjour, Monsieur Lemelin.
Bonjour, Madame Maréchal.
Alors, je voulais votre action là, à la suite de tout ce qu'on vient de dire avec Louis Lacroix, de ce que la ministre nous disait ce matin, là, pour essayer, je pense qu'elle a essayé de calmer le jeu, mais je ne suis pas sûre que ça marche. Comment vous voyez ça, Monsieur Lemelin?
Ben, écoutez, ça me fait sourire un petit peu. On dirait un appel à tous, hein?
Exact, c'est comme ça que je le comprends, ouais.
Ben, écoutez, quand on parle d'aller vers la restauration, qu'on parle de tous les secteurs de l'économie là, du Québec, là, c'est vraiment un appel à tous. Donc, vous savez, pour être préposé aux bénéficiaires, il faut avoir un profil, hein. Dès qu'on veut aider son prochain, dès qu'on veut être au service des autres, il faut absolument avoir un profil parce que tout dépendant du secteur d'activité où vous êtes, là, si on parle de soins à domicile, si vous parlez dans le privé, si vous parlez en CHSLD ou en CH, les centres hospitaliers, c'est des secteurs qui ont des différences. Et ça, bien souvent, les gens oublient ça. Surtout en soins de longue durée, c'est un secteur de gérontologie et on retrouve une panoplie de gens qui ont des maladies autant cognitives que physiques.
Mmh. Là, mais comme vous dites, appel à l'aide, ça pourrait être n'importe qui, là, qui a aucune formation du genre. Ça peut être des acrobates du Cirque du Soleil qui n'ont pas de job en ce moment. Ça peut être des vendeurs de vêtements de magasins comme Lolé qui viennent se mettre sous la protection de la loi sur la faillite. Ça peut être des fonctionnaires. C'est un peu tout le monde, finalement. Comment cet appel à l'aide est-il bien réfléchi, d'après vous?
Ben, je peux pas croire que ça n'a pas été sûrement étudié et sûrement planifié. Il faut qu'il y ait quelqu'un à quelque part qui aille réfléchir à ça. Tantôt, on parlait de l'histoire de la formation de 3 mois. Je sais que du côté du premier ministre, la semaine passée, lors de la séance de l'Assemblée nationale, il parlait que du côté du ministre Roberge, le ministre de l'Éducation, il était en train de préparer le retour pour les formations en centre de formation professionnelle,
ouais,
dont les préposés aux bénéficiaires.
Oui, parce que là, en ce moment, pour être préposé aux bénéficiaires, M. Lemelin, c'est un DEP, hein, c'est un diplôme d'études professionnelles, c'est 870 heures, donc c'est au moins 25 semaines, c'est à peu près ça.
Effectivement, de 6 à 8 mois.
Ouais.
Tout dépendant des ententes, parce que maintenant, il y a des ententes plus localisées, ce qu'on parle de centres de formation professionnelle avec des CIUS qui prennent des ententes travail-études. Donc, des fois, la formation peut être un peu plus prolongée parce que autant ils peuvent travailler en théorie, mais ils peuvent aussi faire des stages.
En milieu de travail, là, directement.
Rémunérés en milieu de travail, ouais, effectivement.
Mais est-ce qu'on peut passer d'une formation de 8 mois à une formation de 3 mois?
Ben, écoutez, on parle de 870 heures, selon mes calculs, c'est environ 300 heures. Pour aller chercher de la qualité là-dedans, ça va être assez difficile. Puis aussi, l'autre commentaire que j'aimerais apporter, c'est que l'objectif de recruter, de former 10 000 personnes pour combler les besoins fondamentaux, c'est un projet ambitieux, puis c'est tout un défi, là.
Ouais.
C'est 10 000, là. On parle de 10 000. Vous savez, du côté du ministère de l'Éducation, que ce soit du côté des auxiliaires familiales ou des préposés aux bénéficiaires en établissement, on parle d'environ de 2 à 3 000 diplômés par année.
Là, ça... Donc, c'est sûr qu'en ce moment, à ce rythme-là, ce que vous me dites, M. Lemelin, ça prendrait 3 ans et demi pour former 10 000 personnes. On n'a pas le temps d'attendre un autre 3-4 ans. En même temps, jusqu'où peut-on galvauder la formation? Puis quand je dis galvauder, c'est vrai qu'il y a eu toutes sortes de messages au cours des dernières semaines, puis on peut même dire des derniers mois, parce que ça commence à faire bientôt 3 mois, quand on a entendu Diane Francoeur, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, quand il y a eu cet appel même aux spécialistes, vous vous en souvenez, M. Lemelin? Tout le monde, oui, s'en souvient. Mme Francoeur avait dit, ben, prendre des spécialistes pour aller laver le plancher, là, c'est pas vrai qu'on va faire ça. On l'a beaucoup... C'était un commentaire extrêmement dénigrant par rapport au travail de préposé aux bénéficiaires, mais c'est la vision que beaucoup de gens en ont. Du monde, là, c'est des bras, t'as pas besoin d'être bien formé, c'est pas compliqué, tu laves le plancher, tu torches le monde, c'est un peu ça, c'est... C'était pas attirant, là. Encore, il n'y a pas si longtemps, c'était pas du tout attirant comme emploi, là.
Ouais, ben là-dessus, il faut dire que c'est une perception.
Mm-hmm.
Moi, j'ai été préposé aux bénéficiaires en soins de longue durée. J'ai travaillé dans ce domaine-là, puis je peux vous dire qu'une dévalorisation, j'en avais pas de ça. C'est toujours une perception. S'il n'y avait pas les préposés pour combler les besoins fondamentaux, les besoins de base, même si vous auriez la meilleure des infirmières puis le meilleur des médecins pour soit faire des traitements ou soit tout simplement prescrire des médicaments, si vous n'avez même pas la base pour laver les gens, si vous n'avez même pas la base pour pouvoir faire tout ce qu'il faut au niveau des besoins fondamentaux, ben c'est un échec dans les soins. Donc, la première base, c'est les préposés aux bénéficiaires. Moi, là-dedans, comme je vous dis, en ayant été dans les soins de longue durée, j'ai jamais senti ma profession comme étant dénigrante. Au contraire, j'en étais fier. Mm. Et je pourrais même vous dire là-dessus que les patients, le simple merci, la simple reconnaissance de leur part et aussi de la part des familles, pour nous, c'était toute une paye, là.
Ouais, effectivement.
Oui, les conditions, c'est difficile, mais encore là, tantôt, comme je vous parlais en introduction, il faut être prudent. Des fois, les gens mêlent résidence pour personnes âgées avec soins de longue durée. C'est pas tout à fait les mêmes cas. Quand on parle de résidence pour personnes âgées, on parle de personnes autonomes, ouais, légère perte d'autonomie.
Mmh.
Ressources intermédiaires, ben là, on perd un petit peu plus d'autonomie. Et là, quand on est en soins de longue durée, ben là, en soins de longue durée, c'est complètement différent. Là, c'est vraiment la grosse perte d'autonomie.
Ouais.
Même que je me souviens, quand on parlait à l'époque de soins de longue durée, il y a des gens qui arrivaient avec leur voiture et ils rentraient en soins de longue durée. Ça vous donne une idée qu'aujourd'hui, on rentre en fauteuil roulant ou on rentre en civière.
Et on sort les deux pieds par en avant.
Effectivement.
Ouais. Une chose est sûre, c'est que ce que je comprends de ce que vous me dites, M. Lemelin, c'est qu'on ne peut pas couper les coins ronds dans la formation, là.
Non, surtout en soins de longue durée, ouais. Il faut pas couper les coins ronds. C'est bien important. C'est pas simplement de dire « je vais laver ». Il y a des techniques là-dedans. Il faut avoir une certaine connaissance médicale pour pouvoir décerner, de pouvoir comprendre la maladie. Mm. Vous savez, faire des approches avec des personnes psychiatrisées, des personnes en perte cognitive ou des personnes avec de l'Alzheimer ou de la démence, c'est des approches différentes. Donc, déjà là, en partant, si on omet d'avoir une bonne formation de ce côté-là, ben le coffre à outils des préposés aux bénéficiaires va être mal garni. Ouais. Et quand on va faire une intervention auprès de ces patients-là, ben malheureusement, ils vont être démunis.
Merci beaucoup, Michel Lemelin. Merci bien d'avoir pris le temps de nous parler. Président directeur général de la Fédération professionnelle des préposés aux bénéficiaires du Québec. On va s'arrêter ici. Nos lignes sont pleines, peut-être, de gens qui veulent devenir préposés aux bénéficiaires. C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous accepteriez, vous, de travailler comme préposé aux bénéficiaires? Il y a une formation qui va être mise sur pied. On parle d'environ 3 mois. Là. Vous serez payé, bien sûr, pour cette formation. Puis vous pourrez décider ensuite d'aller travailler comme préposé aux bénéficiaires. Le salaire a été augmenté, bonifié de 18 % dans les CHSLD. Évidemment, il y a beaucoup d'autres questions qui se posent. On vous donne la parole tout de suite après la pause. 514-790-9850. Un peu partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Beaucoup de réactions par rapport à ce qu'on discute là ce matin, vous et moi. Je vous demande si vous accepteriez de travailler comme préposé aux bénéficiaires. Les conditions ont été grandement bonifiées. On cherche vraiment 10 000 personnes pour septembre. Sinon, le premier ministre François Legault l'a dit, ce sera des employés de l'État qui vont devoir aller travailler ou, et Marguerite Blais l'a précisé encore ce matin, ou à peu près toute personne qui va se porter volontaire, volontaire bien sûr rémunéré. On pense même à des gens du secteur de la restauration qui n'ont pas d'emploi, au secteur de l'aéronautique. On pense à faire venir également des immigrants. Ça fait beaucoup réagir. Martine, bonjour.
Oui, bonjour. Comment allez-vous, Mme Maréchal?
Très bien, très bien. Je vous écoute là-dessus. Vous avez...
Ouais. Moi, j'ai un peu... je ne sais pas ce que M. Legault pense, mais on a plein d'étudiants, Mme Maréchal, comme ma fille qui est à l'école inscrite en préposé bénéficiaire, où ce que l'école est mise sur pause, ça lui a coûté 600 $. Elle attend pour aller travailler. Puis là, on dit qu'on va faire privilégier les gens de la restauration, les gens de l'immigration, les gens de l'aéronautique. Pourquoi M. Legault ne va pas chercher les gens qui sont déjà inscrits, qui ont déjà passé leur test, savoir si on l'a pour aller à l'école, qu'on ne va pas les chercher, ces gens-là. Mm-hmm. Ils sont en attente de poursuivre leur école. Ils sont en attente d'avoir leur diplôme d'études professionnelles.
C'est une très bonne question.
On fait quoi avec ces gens-là? Ils ont payé 600 $ là. Là, ma fille travaille à temps partiel chez Provigo, parce qu'elle en a plein son casque parce qu'elle veut s'en aller dans sa profession. Elle est rendue à 21 ans. Elle a hâte de terminer. Tout est mis sur pause. Pourquoi M. Legault va pas chercher ces gens-là?
Il lui manque combien d'heures, Martine, à votre fille?
Ben moi, ma fille, là, elle est allée au centre de la formation Faubourg à Montréal. Elle avait commencé son cours de soins infirmiers auxiliaires. Elle avait toute fait sa partie préposée bénéficiaire. Elle a abandonné parce que là, pour question de santé, elle est retournée. Puis elle doit recommencer. Mais aussitôt qu'elle a commencé, le COVID a embarqué, l'école a fermé.
Okay.
Fait qu'on fait quoi avec ces gens-là? Qui sont sur le bord, probablement qu'il y en a qui sont sur le bord de finir leur formation, là, mais qui peuvent pas l'avoir parce que, un, ils leur ont dit que ça prend des stages, ça prend ci, mais on est prêt à prendre des gens de l'aéronautique, de la restauration qui ont perdu leur emploi. Je suis pas contre ça. Aller chercher des immigrants. On en a des jeunes là qui sont prêts à travailler, mais qui ont juste pas fini l'école, puis qui ont payé leur cours. On fait quoi avec eux autres?
Oui, mais je pense que votre fille pourrait définitivement aller faire le 3 mois. Elle aurait l'attestation, parce que c'est une formation de 300 heures. Ça sera pas un DEP, là. C'est pas un diplôme d'études professionnelles. Elle pourra toujours le finir en temps et lieu, mais sans doute que ça serait une parfaite candidate. Merci, Martine, de votre témoignage, puis de vos bonnes questions, parce que c'est un fait. Puis ça, là, au cours des dernières semaines, on a tellement eu de commentaires de gens qui ont appelé ici aux émissions de mes collègues pour dire qu'ils étaient même préposés aux bénéficiaires. Puis il était prêt à retourner travailler, mais qu'on les appelait pas. Des gens là qui avaient travaillé, qui avaient arrêté d'être préposés, mais qui étaient prêts à retourner, puis qui se faisaient pas appeler. Et il y en a encore qui me le disent ce matin. On a Noéline avec nous. Bonjour, Noéline.
Oui, bonjour. Moi, pour commencer, j'ai adoré les propos de M. Lemelin. Il a tellement, tellement bien décrit c'est quoi un préposé aux bénéficiaires. Moi, j'ai travaillé 38 ans dans un CHSLD. Faut vraiment aimer l'humain et je trouve que présentement c'est dangereux parce qu'on ne peut pas régler le nombre de personnel en si peu de temps. Je pense que ce serait bon que ceux qui veulent s'inscrire aient droit à une journée passée juste comme observateur sur une unité de soins de longue durée. Ce sont des gens qui sont très vulnérables. 90% des gens ont des problèmes cognitifs importants. Ça prend une façon d'agir avec eux pour réussir à faire les soins de base. C'est souvent des patients qui peuvent être agressifs parce qu'ils sont dans leur monde à eux. Alors ça, il faut le comprendre. Il ne faut pas être impatient avec eux. Il faut avoir la vocation. Ce qui aide beaucoup, je trouve, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes préposées. Ça prend une douceur extrême, de la patience. Et souvent, c'est ça, c'est dangereux parce que c'est... Il peut y avoir un certain abus de pouvoir envers ces gens-là aussi, hein, malheureusement.
Oui, tout à fait.
Fait que le salaire, oui, c'est une chose, mais c'est pas tout.
Ouais, vous avez été 38 ans préposé aux bénéficiaires.
Moi, j'étais infirmière auxiliaire.
Ah, vous étiez infirmière auxiliaire.
Oui, j'ai fait aussi le travail de préposé. L'un ne va pas sans l'autre.
Oui, tout à fait.
C'est un travail d'équipe.
Ouais. Merci beaucoup de votre commentaire. Merci bien. Nicole, bonjour.
Bonjour, Mme Maréchal. Très contente de vous parler aujourd'hui. Moi, je suis une auxiliaire en santé et services sociaux de Laval. D'ailleurs, je prends ma retraite demain, alors ça tombe bien parce que je voulais vous parler, ça fait longtemps. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il va sûrement y avoir plusieurs personnes puis les postes vont être comblés. Mais par contre, à quel prix? C'est que c'est très important pour moi l'intérêt que les personnes y portent. Il y en a plusieurs, ça va être pour le salaire, ça c'est sûr, ou préserver leur statut social. Beaucoup de migrants, ils vont vouloir appliquer. Mais par contre, là où est-ce que ça m'inquiète vraiment, c'est de savoir la qualité du service. Parce que pour changer une culotte, n'importe qui peut le faire. Mais ça demande quand même des formations. Nous, on en a, parce que c'est très différent. Une auxiliaire et une préposée, c'est différent. Alors, là, on parle de préposée. Et moi, je trouve ça vraiment dommage parce que là, c'est comme si on est rendu qu'on réalise l'importance, hein? Et puis qu'il nous faut du personnel, je comprends, mais à quel prix? Alors, c'est juste que je trouve ça dommage.
C'est effectivement un très, très, très bon point. Merci beaucoup, Nicole, de votre commentaire. Effectivement, à quel prix? Beaucoup de gens m'écrivent et me demandent, comme Dani, là, comment faire pour donner son nom pour devenir préposé aux bénéficiaires, le fameux programme de M. Legault, où est-ce que je peux m'inscrire? Beaucoup de gens veulent le savoir. Je cherche. On a mis mon recherchiste Normand Jem là-dessus. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de questions là, qui demeurent réponse. Tout de suite après la pause, on va parler à Daniel Boyer, président de la FTQ. Lui aussi, beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Et vos commentaires tout au long de la prochaine demi-heure sur cette question. Je vous pose la question, est-ce que vous aimeriez vous devenir préposé aux bénéficiaires? Ça devient alléchant pour le salaire, pour les conditions, bonifié. Évidemment, on demande beaucoup de monde, hein. 10 000, c'est pas rien, ça va en prendre du monde. Là, on est prêt à donner le travail à plein, plein, plein de gens qui sont pas formés. Ce qu'on comprend, c'est que c'est pas simple d'être préposé, ça prend de grandes qualités, on s'en rend compte aujourd'hui. Puis on est prêt à payer ce prix-là aujourd'hui. C'est bien dommage qu'on s'en rend compte un peu, malheureusement, trop tard. À tout de suite, tout le monde. Daniel Boyer est président de la Fédération des travailleurs du Québec, la FTQ. Bonjour, M. Boyer.
Bonjour, Mme Maréchal.
Vous représentez une dizaine de milliers de préposés aux bénéficiaires.
Oui, tout à fait.
Vous-même, vous l'avez été à l'époque comme étudiant pour payer vos études?
Eh oui, pendant 7 ans.
Avez-vous aimé ça?
Bien sûr que j'ai aimé ça. C'est une belle partie de ma vie, je vous avoue. Oui, bien sûr.
Pensez-vous que les gens vont être tentés en grand nombre d'aller suivre cette formation alléchante quand même? C'est plus payant que d'être sur la PCU, c'est sûr. Là, on sait que ça achève, ce programme-là.
Écoutez, je le souhaite. Je le souhaite beaucoup. Mais vous savez, on annonce ce programme-là, mais les conséquences indirectes de ce programme-là... Écoutez, c'est dans les résidences privées de personnes âgées. Est-ce qu'il va rester des préposés pour prendre soin des personnes âgées? Je suis pas sûr. Puis écoutez, je disais, il me semble, c'est à votre émission, là, la problématique d'augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires. Non, on n'a absolument rien contre l'augmentation du salaire des préposés aux bénéficiaires, mais il faudrait regarder aussi le salaire des autres personnes. Parce que là, je vous donne juste un exemple. Je prends M. Legault qui dit que les préposés vont gagner 26 $ de l'heure, là. Je ne sais pas où il prend ça, parce que si vous allez calculer, additionner les montants sur le site du Conseil du Trésor, là, j'arrive pas, moi, à 26, j'arrive à moins que ça. Là.
À 22? Et, mettons, à quelque chose comme 22? Ouais, parce que 26, moi, je comprends que 26, là, M. Boyer, c'est en haut de l'échelle.
Bon, écoutez, je ne sais pas. Hier, M. Legault disait qu'ils vont travailler à 26 $ après les formations. Je ne sais pas, là. Mais moi, je vous dis juste là que si on applique l'augmentation de salaire qui est proposée par le Conseil du Trésor aux infirmières auxiliaires, ben une infirmière là, auxiliaire, ça va gagner 22,98 $, puis une infirmière, ça va gagner 24,50 $ au premier échelon. Et là, vous allez me dire qu'un préposé, ça va gagner 26. J'ai pas de problème qu'un préposé gagne 26, là, mais vous voyez la problématique. C'est pas simple comme ça d'augmenter les salaires. D'ailleurs, M. Legault, il dit on veut augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires, mais il s'y prend d'une drôle de façon. Augmenter les salaires, c'est facile. Qu'on augmente les salaires, c'est tout. Mais M. Legault, là, il y a une augmentation de salaire, un forfaitaire, un pourcentage de majoration de traitement, puis des primes. C'est comme ça qu'il arrive à son 26 $. Mais pourquoi on n'augmente pas le salaire à 26 $ si c'est ce qu'on veut faire? Parce que là, il y a une partie du salaire qui ne sera pas admissible au niveau du régime de retraite. Il y a une partie du salaire qui ne sera pas admissible en assurance salaire. Il y a une partie du salaire qui ne sera pas admissible au niveau des autres avantages sociaux. C'est un problème.
Ouais.
Et moi, je vous le dis, je peux pas être contre, là. Mais vous n'aurez pas juste des gens qui travaillent dans les résidences privées pour personnes âgées et des gens qui travaillent dans des entreprises d'économie sociale qui donnent des services à domicile qui vont appliquer sur le programme. Là. Vous risquez d'avoir des gens qui avaient l'intention de devenir infirmière et infirmière auxiliaire parce que le salaire de préposé ou le salaire d'entrée risque d'être plus élevé. Puis c'est un problème. Donc, moi, je pense qu'il faut majorer les salaires des autres aussi. Et c'est pour ça que dans le cadre de l'actuelle négociation, c'est pour ça qu'on dit, oui, on est d'accord à augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires, mais il faut aussi qu'il y en ait pour tout le monde. Sinon, il y a un déséquilibre qui s'installe. Et là, c'est ce qu'on est après provoquer comme déséquilibre. Là.
En même temps, le besoin est tellement grand, M. Boyer. Quoi pour régler le problème? Ça fait 3 mois qu'il essaie, le gouvernement Legault. Il a essayé de tout bord, tout côté. Il a tout tenté. Ils ont de la misère à trouver du monde. Il faut quand même être tous conscients de ça. Là. C'est pas qu'ils essayent pas, ils essayent vraiment. Ils sont rendus à dire, mon Dieu, on sait plus aller les chercher, qu'on va aller les chercher à l'extérieur du Québec, là, dans d'autres pays, peut-être faire venir des immigrants. Ouais.
Mais il faut travailler à deux niveaux. Hein. C'est pas juste d'augmenter les salaires, c'est d'améliorer aussi les conditions d'exercice d'emploi. Et nous, c'est le pari qu'on fait dans l'actuelle négociation. Il faut améliorer les conditions d'exercice d'emploi. Donc, un, il faut ajouter des bras. Deux, il faut titulariser les gens. Il y a 50% des gens qui travaillent à temps partiel. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Il devrait y avoir plus de gens qui ont des postes à temps complet. Ceux qui sont à temps partiel devraient avoir un minimum d'heures garanties. Il faut organiser les horaires de travail dans le but que ce soit alléchant, valorisant. Et là, c'est pas le cas. Puis vous savez, ce que propose le gouvernement, c'est-à-dire une formation accélérée, là, ça a déjà été testé, ça, il n'y a pas si longtemps dans le réseau, là. Le problème, c'est que quand les gens ont fini la formation, il y en a peu qui restent par la suite.
Mm-hmm.
Parce que les conditions d'exercice d'emploi ne sont pas intéressantes. Oui, le salaire va devenir intéressant, mais écoutez, si les conditions d'exercice d'emploi ne sont pas au rendez-vous, les gens ne travailleront pas longtemps. Là. C'est difficile comme travail. Là. C'est exigeant.
Oui, puis vous avez dit des bras n'ont besoin. Mais c'est pas juste des bras, là, on l'a compris. Là. On n'arrête pas d'avoir des thèmes. C'est vraiment un travail spécialisé. Là.
Ah, tout à fait, tout à fait. Et là, écoutez, je comprends que le besoin il est urgent. Là, on vient de sacrifier une partie de la formation des préposés aux bénéficiaires. Là. C'est une formation, au moment où on se parle, de 870 heures. Je ne sais pas là où on va couper, là, mais c'est sûr qu'il y a un besoin urgent. Moi, je vous le dis, là, je ne suis pas contre, mais il faut regarder les conséquences ailleurs de ce que ça peut provoquer, entre autres dans les résidences privées de personnes aînées. Puis vous savez que nos syndicats ont fait une demande de décret de convention collective dans les résidences privées pour aînés et également dans les entreprises d'économie sociale qui donnent des services à domicile, parce qu'on pense qu'il faut également rehausser les conditions de travail salariales et conditions d'exercice d'emploi de ce monde-là aussi. Parce que si on ne fait pas ça, il n'y a plus personne qui va aller travailler dans les résidences privées pour l'aîné puis dans les services à domicile. Ils vont tous se rendre disponibles pour la formation de préposés aux bénéficiaires.
Oui, on va parler justement à Yves Desjardins là, qui s'occupe du regroupement québécois des résidences pour aînés. Mais très rapidement, avant de vous laisser, M. Boyer, vous dites, vous, c'est une catastrophe annoncée, ce programme-là?
Non, je dis pas que c'est une catastrophe annoncée, mais il faut rééquilibrer certaines choses. C'est pas une catastrophe annoncée si on a des conditions de travail adéquates dans les résidences privées pour aînés et dans les services à domicile. C'est pas une catastrophe annoncée non plus si on augmente de façon plus importante que le propose le gouvernement les autres types d'emplois dans le réseau de la santé. Tout ça, ça va ensemble. Vous pouvez pas prendre juste une donnée puis dire j'augmente le salaire des préposés, je donne de la formation, j'en embauche 1000, puis je viens de régler mon problème. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, il faut regarder tout l'éventail des solutions dont on a besoin. Et c'est ça que le gouvernement ne fait pas, puis comprend pas dans l'actuelle pandémie, puis dans l'actuelle négociation dans le secteur public.
Merci, Daniel Boyer, président de la FTQ. Yves Desjardins est président directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés. Bonjour, M. Desjardins. Vous représentez,
bonjour, madame.
Il y a 1750 résidences privées au Québec pour aînés. Là, vous craignez le pire.
Ah, c'est certain. Ça nous inquiète grandement. En même temps, c'est une bonne nouvelle. On est tous à la même place, je pense. Il faut attirer des gens pour prendre soin de nos aînés. Cette population-là qui va se multiplier dans les prochaines années, ça va prendre encore plus de main-d'œuvre. Mais en même temps, j'entendais M. Boyer, mais c'est un peu aussi notre propos. On peut pas régler un problème et en créer d'autres, là, parce qu'il y a un déséquilibre épouvantable qui va se produire. Et si on vide les résidences de leur personnel, ben ils vont carrément fermer leurs portes.
Oui, mais là, vous, ça, c'est combien d'aînés qui sont dans ces 1750 résidences privées au Québec, M. Desjardins?
On parle d'environ 135 000 personnes qui habitent en résidence pour aînés.
Oui, qui sont autonomes toutefois, qui sont pas, c'est pas la même situation qu'en CHSLD.
Non, en fait, oui, il y a des gens autonomes, il y a des gens avec une légère perte d'autonomie, il y a des gens avec de plus grandes pertes d'autonomie. Il reste que c'est un domicile, hein, une résidence pour aînés, c'est un choix. Les gens font ce choix-là de demeurer dans un domicile et d'aller chercher les soins. Plusieurs façons, les services qui sont offerts par la résidence, auquel il y a un coût, bien sûr, recourir aux services du CLSC, lorsque c'est possible, on sait qu'ils sont débordés, ou faire appel à des services privés autres. Mais actuellement, beaucoup de nos résidents ont, à plus ou moins grande échelle, besoin de services d'aide à la vie quotidienne.
Et les préposés bénéficiaires qui travaillent dans ces résidences-là font quoi? Je les ai à peu près 14 $ dans le privé, là, c'est ça le tarif?
Exactement.
Dollars,
et si on compare, oui, exact. Mais si on compare avec ce qui a été annoncé hier, là, on parle des augmentations de salaire de 60 %. Moi, je connais pas une entreprise, peu importe le secteur d'activité, qui peut résister à des augmentations semblables. Là. C'est impossible.
Vous serez jamais capable d'accoter ça, c'est ce que vous me dites?
Absolument. C'est impossible. Déjà, on peine à boucler le budget. Plusieurs petites résidences, et vous le savez, je pense qu'on en avait parlé récemment, 550 résidences ont fermé leurs portes au cours des 5 dernières années. On va juste accélérer le processus. Soit qu'il n'y aura plus d'employés, ou si on augmente les salaires, on n'aura plus de résidents parce qu'ils ne sont pas en mesure d'assumer les hausses de loyers extraordinaires là, qu'on va leur charger. C'est des augmentations impossibles à assumer.
Donc, vous êtes très inquiet pour ce qui va se passer dans le secteur privé, là?
Inquiet, mais pas découragé. Parce que je pense que la problématique est connue, là, pas juste de nous, elle est connue du gouvernement. Il est en mesure également de savoir que si les résidences ne sont pas là, c'est le réseau de la santé qui va devoir prendre le relais. Je ne suis pas sûr qu'ils sont en mesure de le faire.
Allez-vous demander donc, pour essayer de rééquilibrer ce déséquilibre dont vous parlez, allez-vous demander au gouvernement Legault de subventionner le 12$ qui manquerait, là, si on compare 14 $ au privé comparativement à 26 $ au public, là, si ces chiffres-là sont les bons, c'est 12 $ d'écart. Est-ce que ce 12 $-là, vous allez demander que le gouvernement vous les subventionne, vous les finance?
Il faut trouver des solutions. On est déjà pour parler, si vous voulez, avec les différents organismes du gouvernement. C'est une solution, bien sûr. Il y en a d'autres. On est à évaluer différentes solutions. Mais le statu quo, là, n'est pas possible. Là. C'est évident. Nous, on est, dans ce sens-là, très inquiets. Mais en même temps, moi, j'aime mieux être positif. C'est une bonne nouvelle. Faut prendre soin de nos aînés. Attirons les gens. On n'est pas dans une bataille publique-privée. On est tout le monde ensemble pour prendre soin d'une population vieillissante qui va avoir besoin de services.
Et qui mérite qu'on s'en
occupe.
Comme ça. Ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, M. Desjardins. On aura l'occasion de se reparler, j'en doute pas. On s'arrête ici. Dans deux minutes, je vais vous donner la parole. Beaucoup de gens, sans doute, qui veulent réagir à ça. À tout de suite. Alors, pour répondre à votre question, elles sont nombreuses sur les centres de formation professionnelle. Effectivement, ce sont eux là, qui vont offrir probablement, de ce qu'on comprend, ce programme pour devenir préposé aux bénéficiaires. Ce sont eux qui l'offrent en ce moment, le diplôme d'études professionnelles pour détenir le titre de préposé aux bénéficiaires. C'est le programme de 870 heures. Évidemment, le programme de M. Legault devrait être pris en charge par les centres de formation professionnelle, mais même eux, là, apparemment, depuis hier, reçoivent énormément d'appels depuis cette annonce. Et ils n'ont pas énormément de réponses. Fait que je pense qu'on va en apprendre un petit peu plus, mais pour répondre à votre question, là, beaucoup de gens l'ont posée, la formation des nouveaux préposés, là, cette formation de 3 mois qui va être rémunérée, qui vous donnera accès ensuite à travailler dans un CHSLD, ça va être dans un centre de formation professionnelle que vous devez appeler. On a Alain, justement, qui nous appelle. Bonjour.
Bonjour, Isabelle.
On vous écoute, Alain.
Écoutez, je pense que le sujet aujourd'hui, là, c'est pratiquement un puissant fond d'idées puis de... soit de personnes en faveur ou en opposition. Là. C'est le résultat. On est présentement, là, on vit la résultante de plusieurs années où on a négligé ce secteur-là. Là.
Exact.
Les gouvernements précédents ont été inactifs. Puis je trouve ça tellement drôle d'entendre de Mme la ministre...
Marguerite Blais.
Marguerite Blais. Voyons donc, elle était au gouvernement avant, puis elle n'a rien fait. Pour ce qui est de la formation, j'aimerais répondre à 3 choses. Premièrement, il faudrait changer le nom de la profession.
Oh mon Dieu, je vous aime. Oh Alain, je vous aime. Préposé aux bénéficiaires, qu'est-ce que ça veut dire?
Moi, j'appellerais ça soutien infirmier. Je pense que c'est vraiment... Tu sais, on parlait avant des secrétaires. Maintenant, on dit une adjointe.
Ouais.
Alors, je pense qu'on a besoin de faire un ménage là-dedans.
Aide-soignant, est-ce que ça pourrait être bon? Non, c'est pas bon, aide-soignant.
Non, ça existe déjà, je pense.
Oui, mais bon, pourquoi pas?
Moi, je vois soutien infirmier.
Soutien infirmier, c'est comme pas une personne, c'est comme
ouais, je comprends.
C'est comme préposé bénéficiaire. Un préposé, c'est comme quelqu'un qui travaille derrière un bureau, mais puis bénéficiaire. Et on a compris qu'on bénéficie pas de grand chose. Mais vous avez raison, il faudrait changer le titre, ouais.
L'autre facteur que j'ai identifié, c'est que la profession est tellement pas attirante parce que on n'a pas la masse critique. Mettez 10 000 personnes de plus dans le réseau de la santé, des gens qui ne sont pas toujours essoufflés puis qui vont faire du travail supplémentaire obligatoire, la profession va devenir, en guillemets, normale, et les gens vont probablement être attirés.
Merci Alain, merci. Je vais devoir vous couper parce qu'on a vraiment beaucoup de monde. Puis il y a Isabelle qui propose de bénéficier, puis j'aimerais ça entendre Isabelle. Bonjour.
Oui, bonjour.
Parlez-moi de votre travail, Isabelle.
Moi, je vais vous conter ce que, depuis 25 ans, je travaille, puis je vais vous conter, moi, ce que j'ai vu. Pour moi. Premièrement, comme préposé, nous, ça allait très bien. Ça a commencé à dégrader quand ça a commencé à faire les fusions, comme hôpitaux, puis tous les foyers, tu sais, que ce soit la Biche, Coutimi-Jonquière, partout. Là, ils ont pris juste une personne de l'hôpital qui ont commencé à donner les pour nos chiffres.
Mm-hmm.
Mais la moitié des préposés n'étaient pas appelés, ne travaillaient pas. Parce que c'est impossible de gérer, d'appeler tout le monde pour aller à telle place, pour aller à telle place. Ça fait que le monde a commencé cette année, ils trouvaient qu'ils ne travaillaient pas assez, ils sont partis.
Ouais.
Puis, deuxièmement, quand j'ai commencé à être avec du monde, je trouve qu'on a trop de patients pour ce qu'on peut faire avec eux autres. Parce qu'on travaille avec des malades assez... parce que c'est des cas Alzheimer,
hein, voilà.
C'est des cas, on a des handicapés, c'est tout mêlé ensemble, là.
Ouais.
On a des schizophrènes, on n'a pas d'agent de sécurité, on a tout ce monde-là à gérer, on a 24 patients, on est 2 préposés.
Oh mon Dieu, Isabelle, c'est tellement, je compatis, puis c'est sincèrement, aujourd'hui, à nouveau, je pense qu'il faut leur dire, on se rend compte de cette terrible tâche qu'ont les préposés aux bénéficiaires, des gens qui ont, des travailleurs qui ont été assez ignorés pendant très longtemps, effectivement, comme nous le confirme Isabelle. Lucie est avec nous. Bonjour, Lucie.
Oui, bonjour. Merci, Isabelle. Voici, la première chose que je veux dire, c'est que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir travailler là, ça prend un savoir-être. Et ça se développe au fil des expériences de la vie, c'est pas évident. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose, là, mais on est des centaines de personnes qui, avant la pandémie, ont travaillé dans les CHSLD. Hein, on accompagnait nos parents et on nous a évincés et on essaie de retourner. Et même si vous pensez au niveau de la population là, qu'on a accès, c'est totalement faux. 40 heures par semaine d'accompagnement, ma mère avait avant la pandémie et on me donne 3 fois 2 heures. Et vous savez, sous quel prétexte, et c'est ça qui est absolument aberrant, je vais contenir ma colère, là, parce qu'il manque d'employés. On ne peut pas nous accueillir parce qu'il manque de personnel. Parce que ça prend quelqu'un pour nous reconduire du hall d'entrée jusqu'à la chambre. Ça fait 7 ans que je fais ça. Des fois, 30 heures semaine. Tout le monde pense qu'on est de retour. C'est complètement faux. Et nous, on ne veut pas être payé. On a le savoir-être. On connaît. On connaît la personne. Oui. On connaît ses besoins. On donne du répit aux préposés, justement parce qu'ils savent qu'on donne des soins appropriés.
Effectivement.
Mais on est refusé. Ma mère est dans un CHSLD privé conventionné et j'apprends ce matin qu'il va encore moins avoir de personnel. C'est vraiment atroce.
Ouais. Merci, Lucie. Puis vous avez tellement raison. Je suis contente que Lucie ait amené cet aspect-là. Beaucoup d'aidants naturels m'écrivent ce matin et confirment exactement ce que Lucie vient de dire. C'est-à-dire, on pense qu'on a permis aux aidants naturels d'aller donner un coup de main dans les CHSLD, puis c'est pas le cas. On a Catherine qui est avec nous. Bonjour, Catherine.
Bonjour, Mme Maréchal. J'ai travaillé, moi, de 1998 à 2003 sur un projet de recherche. Retenez bien le nom. Ça s'appelait le projet SIPA. C'est soins intégrés aux personnes âgées. C'est un projet qui était là par étude, qui a été tabletté après avoir coûté 8 millions par M. Legault, qui était au ministère de la Santé à ce moment-là. Il est au courant de la situation. Qu'est-ce qu'on a fait? Si on a même chiffré en temps les actes posés par les préposés aux bénéficiaires, accordés aux bénéficiaires, en fait, là. Mm-hmm. Savez-vous qu'un préposé aux bénéficiaires, il y a environ entre 8 et 10 minutes pour faire un lever le matin? On parle de lever le patient, de le nettoyer brièvement, là, de l'asseoir, puis l'habiller, puis mettre son déjeuner devant lui, tu as 8 minutes. Des 7 patients par matin que tu as à faire comme préposé aux bénéficiaires. Tu n'as pas le temps d'échanger. Tu n'as pas le temps de laver quelqu'un comme il faut. Déjà là, à la base, c'est ça. On a banni le maintien à domicile après 3,5 heures semaine. Là, ben là, tu es évalué sur la grille CTMSP. Tu es évalué pour t'en aller en centre d'accueil au lieu de donner plus de services de soins à domicile.
Ah, il oui, faut recentrer ça sur le patient, Catherine. Il hein? faut recentrer ça. Ouais, ouais.
Exactement. Merci. Puis pour finir, Mme Maréchal, oui? La réorganisation au niveau régional, c'est de la grosse merde. Ils ont raison, les préposés. Mais les préposés, ils n'ont pas non plus payé leur cotisation pour soutenir leur association. Puis à ça, ils ne peuvent plus défendre leurs droits. Ils sont pognés avec un syndicat qui est généralisé.
Bon, Catherine, vous avez comme bien résumé la situation. Merci beaucoup. On en reparlera, bien sûr, c'est sûr. On va s'arrêter les nouvelles et on revient. On va reparler de travail. À tout de suite, tout le monde.